des questions éventuellement sur votre vie chrétienne. Le chapelet est un conseil. Par contre, la prière du matin et du soir sont sous peine de péché, sous peine de manque d'amour de Dieu. Vous lui dites bonjour le matin et bonsoir le soir. Voilà, tout simplement. Parce que vous vous éveillez et vous le saluez, vous lui dites bonjour. Et le soir, avant de dormir, vous le saluez. Et dans la journée, vous pouvez faire des petites prières, ce qu'on appelle des oraisons jaculatoires. Vous voyez, le javelot, hein, c'est ce qu'on jette. Et donc, on dit à Dieu, Seigneur Jésus. Et on essaye de ne pas se parler à soi-même. Dans la vie spirituelle, il faut arriver à ne jamais se parler à soi-même. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? T'es trop bête, tu fais jamais rien. Enfin, voilà. Normalement, c'est à 90 ans, quand on est sénile, qu'on commence à se parler à soi-même. Donc on est un peu seul. On ne se parle pas à soi-même. On parle à Dieu, on parle à la Vierge Marie, à son ange gardien, mais pas à soi-même. On sait ce qu'on pense, en général. Et donc, si vous avez envie de dire quelque chose, dites-le à celui qui vous entend. Et ça vous entraînera justement à la prière sincère et directe. Voilà, le chapelet, la Vierge Marie ne cesse de nous le demander, donc essayez de le prier, et chaque jour. Et vous allez me dire, oui, mais si j'avais vécu au XIIe siècle, j'aurais dit, il y avait des prières mariales, et on avait le début. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Salutations de Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, et salutations d'Élisabeth. Et vous avez Saint Simon Stock qui a terminé. Vous vous rendez compte? Au ciel, il doit être pas peu fier, quand même. Ça fait des siècles qu'on dit « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » C'est lui qui l'a livré. Est-ce que la Vierge Marie lui a donné? Je ne sais pas. Je crois que c'est lui. C'est une prière qu'il a composée. Et comme les Français sont très prétentieux, c'est « pauvres pécheurs ». Dans les autres, en latin, il n'y a pas pauvre, et dans les autres langues, non plus. C'est prier pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Parce qu'on est très prétentieux. C'est du misérabilisme. Voilà, voilà. Voilà. Et donc, la communion spirituelle. Est-ce que vous savez, tous les catéchumènes savent ce que c'est que la communion spirituelle?
Pour revenir sur le chapelet.
Oui.
C'est donc Saint-Dominique est venu après Simon Stock
Je crois que c'était avant. Du temps de Saint-Dominique, c'était « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. »
On disait déjà le chapelet comme ça.
Ah non, mais on s'arrêtait là.
Oui, c'est encore la deuxième partie.
Ben oui. C'était joli, c'était plus court. C'est comme les enfants de Fatima ou Mélanie et Maximin. Eux, ils disaient « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. » C'est un temps plus court. La communion spirituelle. Quel catéchumène sait ce que c'est? Est-ce que... Lève la main ceux qui ne savent pas ce que c'est que la communion spirituelle. Mince. Vous voyez? À quelques jours du baptême. Mauvais catéchisme. Alors, la communion spirituelle, c'est... Vous vous recueillez, vous mettez en silence. C'est comme le chapelet. Vous pouvez être dans le bus. Alors, les yeux fermés, par contre. Et normalement, on est chez soi. Ou dans une église. Pas en marchant. Quoique. Et on dit, Seigneur Jésus, j'aimerais vous recevoir les mêmes grâces que si je communiais maintenant. Avec la ferveur avec laquelle la Vierge Marie vous a reçu et que les saints vous recevaient. Ça s'appelle une communion spirituelle. Alors, je connais un prêtre qui dit, ah, quand on est en état de péché, on ne peut pas faire une communion spirituelle, c'est comme la communion sacramentelle. Ouais, on peut au moins dire, Seigneur Jésus, actuellement, je ne me sens pas en état suffisamment sincère et authentique de vous recevoir, mais je désire intensément vous recevoir. Je regrette mes péchés. J'en fais un acte de contrition parfait maintenant. et j'aimerais avoir les mêmes grâces que la communion. Mais je me confesserai dès que possible pour pouvoir vous recevoir dans le sacrement de la communion. Mais en dehors de ce sacrement de la communion, j'aimerais les mêmes grâces. Incroyable. Et alors, il y a une coutume. On ne communique qu'une fois par jour. Pourquoi ? Mauvais catéchisme. Parce que le Seigneur est mort une fois dans la journée, et parce que la journée est le temps de l'homme. Et que vous n'avez pas à recevoir la grâce des grâces plusieurs fois par jour. Ou alors ça voudrait dire que la communion sacramentelle est courte. Qu'elle est temporaire, qu'elle dure que quelques heures comme grâce pour votre journée. Un peu bizarre. D'autant plus qu'en Orient, vous savez, il n'y a pas beaucoup de messes en semaine. Et la communion, elle dure une semaine de grâce. Vous voyez ? Oui ? Alors Paul VI, devant la piété affectueuse, affective, contemporaine, a dit « Ah !» Et avec le mouvement liturgique, il a dit « Ah, il y a une unité liturgique, donc quand on assiste à une messe, on doit communier à la messe. » Certes, le prêtre doit, parce qu'il est à la fois victime, sacrificateur du sacrifice. Donc il doit consommer la victime, puisqu'il est à la fois le sacrificateur, il est à la fois Abraham et Isaac. Il est à la fois Jésus-Christ et la permission du Père, qui, pour satisfaire la justice, mais aussi pour nous donner les grâces de son pardon, permet que son fils meure. Donc comme on est à la fois l'autel et la victime, le prêtre doit consommer, doit communier. Alors, ce qui fait que les fidèles, eux, ils n'ont pas la nécessité de communier liturgiquement comme le prêtre. Eux reçoivent la grâce pour leur journée. Alors, il a dit, oui, mais donc on m'a dit que liturgiquement, quand on assiste à une messe, on doit participer totalement à ce qui se... Oui, mais au moment de la communion, si vous avez déjà communié dans précédemment... Ben, pourquoi communier une deuxième fois ? Parce que je suis à nouveau dans une messe, pour participer à ce nouveau sacrifice. Alors ça a un côté traditionnel à la limite, vous voyez. Je participe à ce sacrifice le matin, je passe au sacrifice l'après-midi, et donc je communie. Et si vous assistez à une troisième messe le soir, vous communiez une troisième fois. Je crois que c'est maximum. Pour les fidèles, je crois que c'est deux fois seulement. Mais je crois qu'il y a une règle qui permet de communier à chaque messe à laquelle on assiste pour cette unité du sacrifice, mais pas plus de trois fois. Le prêtre, lui, ne peut célébrer la messe normalement pas plus que de quatre fois. Quatre fois, c'est le maximum des maximums. À ce moment-là, on considère qu'il peut pas avoir l'attention et la ferveur due. Il doit être trop fatigué. Trois fois, c'est le maximum, et quatre fois, c'est l'exceptionnel. Donc, il faut que vous résistiez à l'envie de communier une deuxième fois, même si votre cœur meurt d'amour. Voyez. Parce que souvenez-vous que vous avez communié ce jour-là, et que notre Seigneur est venu déjà en vous pour amplifier sa présence et amplifier sa grâce. Du coup, vous pouvez faire une communion spirituelle très légitime pendant une deuxième messe. Parce qu'en soi, par piété, s'est développée la communion spirituelle, où vous avez des saints qui faisaient 50 communions spirituelles dans la journée. Ils voulaient tout le temps être dans ce contact privilégié de la présence réelle du Christ. Mais alors, c'est un contact très particulier. Parce qu'en fait, quand vous êtes en état de grâce, c'est quand même très 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 proche de ce moment où Jésus vous visite dans sa présence réelle, augmente en vous la grâce. Mais c'est la même grâce. Mais c'est vrai qu'il y a, si tant est qu'on puisse mesurer la grâce, une intensification de sa grâce quand vous communiez sacramentellement. On disait que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ne pouvant plus déglutir, avait demandé à Jésus que lorsqu'elle pouvait communier, que l'hostie reste intacte et non dissoute dans son corps. Si on avait su, hein, le prêtre aurait fait une génuflexion avant de partir. Et les sœurs à chaque fois, voilà. Parce qu'elle était un tabernacle vivant. Mais ça, c'est une grâce de sainte. Vous avez une autre sainte qui a eu une grâce impressionnante. Sainte Julienne, non ? Falconieri. Elle ne pouvait pas communier, elle avait des risques de vomissement, elle ne pouvait pas communier. Mais la dame dont je vous parle, dont je vous ai parlé, j'ai pas terminé mon histoire. Sa fille a été présente à sa mort, à Jeanne Garnier. Vous voyez, elle a vu le cardinal Gerlier, mais sa fille est venue. Elle perdait connaissance depuis un jour et demi. Hein. Elle dormait énormément. Elle lui a pris la main, elle lui a parlé. Et puis, elle a fait une inspiration forte, une deuxième, et pas une troisième. Alors, comme c'était une femme de tête comme sa mère, la fille, elle n'est pas tombée dans le romantisme, elle était troublée de la mort de sa maman. Elle a appelé des infirmières et tout ça. Elle voulait qu'on la ranime. Hein? Et l'infirmière lui a dit « Votre mère est morte. » Elle était là, auprès d'elle. Voyez? Alors c'est à nouveau rude, hein? Mais en même temps, de pouvoir se souvenir qu'elle était là à la mort de sa mère, c'est pas non plus... Enfin si, pour les païens, c'est des horribles souvenirs, n'est-ce pas? C'est terrible. Mais pour un chrétien, on devrait quand même avoir plus... le sens de la providence, et de se dire que ce n'est pas rien de pouvoir assister au moment où nos parents rendent leur âme à Dieu. Et donc, Sainte Julienne était là, et elle a supplié le prêtre de faire du modernisme, et devenir un gros progressiste, quelques siècles avant. Elle lui a demandé de poser le corporal sur elle, qui est absolument pas liturgique, hein, et de poser l'hostie sur le corporal, pour qu'elle puisse être le plus proche possible de Jésus, hostie. Et elle a eu un tel désir que l'hostie a disparu. Elle a été communiée à travers le corporal et à travers ses habits. Et elle est morte. Et au moment de la toilette de la morte, à l'endroit où on avait posé le corporal et l'hostie, il y avait une marque ronde sur sa peau, à l'endroit où l'hostie avait traversé son corps pour entrer dans son corps. Vous avez Sainte Imelda, qui a 12-14 ans. À l'époque, il n'y avait pas Saint Pidis. Alors Saint Pidis, il nous a donné la communion fréquente. Alors pour ceux pour qui la confession est humiliante, tout ça, je vous en ai déjà parlé, pour les jeunes gens, tout ça... Avant, on communiait moins souvent. Maintenant, comme on a honte de ne pas communier, si je... pourquoi il ne communie pas ? J'ai mangé un chewing-gum. Voilà. Ou j'ai pris un gros sandwich avant la messe. Oui, mais ça ne marche pas, Saint Eugène, parce que tu as une heure avant la communion. Ah oui, mais non, moi je respecte la règle ancienne, c'est 3 heures avant que la communion. Et l'autre au bout, il dit non, moi c'est minuit. Ouais, c'est la super règle ancienne. Moi, je respecte vraiment l'Eucharistie. 3 heures, c'est pas assez. C'est à jeun, le jour même à minuit. Je suis un vrai tradit. 3 heures, c'est pour les laxistes, c'est pour Pie XII. C'est affreux moderniste. Et moi, 1 heure, bah là, c'est à la limite du luciférien, vous voyez. C'est 1 heure avant la communion. Donc, je dis toujours à Saint Eugène, on peut prendre un sandwich avant la messe. Juste avant la messe, parce que en fait, il y a 1 heure avant la communion. Le prêtre, c'est 1 heure avant le début de la messe, ou 3 heures avant le début de la messe, ou la veille, minuit avant le début de la messe, au choix. Mais 1 heure avant le début de la messe, même dans la règle laxiste. Alors, Saint Pie X dit, Il discerne sa gauche et sa droite. Il discerne le bien et le mal. Il sait quand il pêche ou pas. Donc 3 ans, hein, en général. C'est pas 7 ans, hein. Un enfant, il sait quand il ment à 3-4 ans. Hein. On va lui dire, vous êtes un peu sévère, sa parfaite conscience. Bon, allez, 5 ans. Oh, quand même, il y en a qui sont un peu bébés encore. Bon, alors 7 ans. Et 7 ans, vous avez l'âge de raison. Hein. Vous savez exactement ce que vous faites. Mais pas tout à fait. Bon, bah, on verra. Hein. Bon. Et à l'époque, donc, pleine advertance, pouvant se confesser et distinguant le pain de l'hostie consacrée. Connaissant le « je crois en Dieu », saint Pie X dit « on donne la communion ». Mais ça faisait un certain temps qu'on donnait la communion, même pas à 7 ans, même pas à 8 ans, même pas à 10 ans, mais à 12 ans. Les Français, vexés, ont maintenu la communion solennelle, mais qui était avant la première communion, à 12 ans. Et la première communion, de l'autorité de saint Pie X, 7 ans, 8 ans, 5 ans. Moi j'ai donné la communion à un enfant de 5 ans et demi, qui est actuellement en 3e année de séminaire. Et donc, alors Imelda, elle avait 12 ans, ou 10 ans, ou 11 ans, elle pouvait toujours pas communier. Elle avait un tel désir de communier, elle disait au prêtre, je voudrais communier. Non, c'est pas la règle. Donc elle arrive à une messe, et là elle désire tellement communier, que vous avez une hostie qui sort du ciboire, et qui se vole en l'air, et qui vient s'arrêter devant Imelda. Comprenez quand même que la foi se soit conservée pendant des siècles avec des miracles comme ça. Parce que vous avez toute l'assistance qui a vu l'hostie arriver devant elle. Et alors le prêtre, il s'est dit, bah, là je dois obéir au patron. Donc il s'approche avec le ciboire, il ne sait pas trop ce qui va se toquer, il prend l'hostie, et l'hostie se laisse prendre, et il communie Imelda. La messe se termine, elle reste à sa place en action de grâce, c'est pas comme à Saint-Eugène où on doit faire le parvis, tout ça... L'abbé de Cacray, qui est un saint homme un peu rigide, hein, maintenant il est à Morgon, vous savez, c'est les capucins, hein, ils ont pieds nus, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, et ils mangent, j'ai jamais su ce que j'ai mangé pendant les 5 jours où j'ai été à Morgon. Et donc, je pense qu'ils font les poubelles du village, voilà, c'est l'esprit de pauvreté à l'état cristallin. Et donc, c'est des vrais capucins. Eh bien, lui, même si des fidèles voulaient lui poser des questions, voulaient machin, tout ça, clac, il faisait une action de grâce d'au moins 5 minutes après la messe. Moi, comme je suis un progressiste, par contre, quand je suis à la messe, je suis assez recueilli. Hein, donc, voilà. Et puis, après la messe, j'ai tendance à faire le pasteur progressiste, à vouloir parler aux gens. Voilà. Bon. Alors que je devrais faire une action de grâce, au moins comme les servants de messe qui, eux, pieusement, plac, arrivent dans le stall et font leur action de grâce qu'ils doivent faire. Eh bien, Imelda est là, elle fait son action de grâce, elle fait son action de grâce, et puis voilà, tout le monde parle sur le parvis, tout ça. Imelda, dis donc, hein, bon, c'est sa première communion, elle était miraculeuse, donc tout le monde s'écrase. Mais au bout d'un certain temps, quand même, un quart d'heure, 20 minutes, on commence un peu à se dire, qu'est-ce qui s'est... On s'approche d'elle, Imelda. Elle était morte. Morte d'amour, son âme est partie vers celui qu'elle a reçu. Elle a été canonisée pour ça. Hein, béatifiée ou canonisée, je crois. Béatifiée, bienheureuse Imelda. Quand même, hein, c'est une façon de mourir. Eh bien, les petites Fatima n'avaient pas encore fait leur première communion. Et vous avez le patron, hein, et avec sa maman, hein, et une maman, hein, sur un patron, en général, elle a du pouvoir, hein, il faut faire attention. Et donc, la Vierge Marie, je sais pas, enfin voilà, l'ange du Portugal, aux ordres, vous leur donnez la communion. Alors les théologiens, ça, c'est pas quand même bizarre, comment un ange qui a un pur esprit, même s'il donne un corps d'emprunt, même s'il concentre de la matière, bon, ça devient solide, c'est sûr, Bon, il n'y a pas les organes à l'intérieur, mais au moins ça a une apparence. Enfin, les enfants de Fatima disaient qu'il était translucide. Hein. Enfin, il y avait assez de matière, assez de lumière, de photons, pour qu'il voit un jeune homme d'une quinzaine d'années. Hein. L'ange du Portugal. Donc, c'était pas leur ange gardien, hein. C'était un ange qui s'occupait du Portugal en entier. Donc, c'est pas forcément un rigolo. Je ne dis pas que les anges gardiens soient des rigolos, ou que les petits anges, que Dieu a créé par milliards, milliards de milliards, hein, les anges, hein, soient des rigolos, hein. Mais l'ange gardien est déjà un ange qui a une mission particulière par rapport à un être humain. Donc c'est pas un ange ordinaire. Et là, quand vous avez un ange qui s'occupe d'un pays en entier, je crois que ça s'appelle une principauté. Hein. C'est les principatus. Hein. Et donc, pourtant, il a l'air jeune, hein, il a une quinzaine d'années. Saint-Michel Archange, quand il apparaît, il est plutôt, hein, c'est plutôt un homme, hein, voilà. Et donc, vous avez l'ange du Portugal, à un moment, il leur apparaît avec, attention, hein, je me demande s'ils n'ont pas communié sous les deux espèces, d'ailleurs. En tout cas, il y avait un calice et une hostie qui saignaient. Il y avait des hosties. Il a communié les enfants. Voyez. Sans étole. Bon, ministre extraordinaire de la communion. Hein. Franchement, quand vous avez l'ange du Portugal qui vous communie, vous n'avez pas « Ah oui, mais c'est pas dans... » Oui, mais non. Voilà. Bon. Mais c'est extraordinaire de se dire que les trois enfants de Fatima ont fait leur première communion des mains d'un ange. Et voilà, voilà. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait remercié Saint Pilice, parce qu'elle était toute petite à l'époque, en 1905, je crois, ou 1907, je ne sais plus. Le décret, c'est 1905.
Elle est morte en 97.
Oui, alors qui a remercié Saint Pilice de la communion? Ou alors, déjà, il y avait des décrets locaux ou... Comme, c'est 1903, Saint Pilice. Donc, quelle est cette sainte qui a remercié Saint Pilice pour la communion des enfants? Ou alors, elle avait fait partie des demandes de diocèse au Vatican.
C'est pas les enfants.
Comment?
C'est pas les enfants.
Je sais pas. Non, mais c'est l'ange qui les a communiés. Alors maintenant, vous allez recevoir le baptême dans la Semaine Sainte. Semaine Sainte qui a été marquée à Paris par un miracle négatif, un miracle de puissance divine, pas pour la santé, pas pour la préservation, quoique peut-être qu'il y a un miracle là-bas et qu'on ne le voit pas, ou peut-être qu'on retrouvera l'épine.
Oui, apparemment.
Oui, mais est-ce qu'il y a les reliques dedans?
Ils ont...
Mais qui vous l'a dit? On a retrouvé l'épine? La Sainte Épine, Sainte Geneviève, Saint Denis. Et ça, c'est joli. Parce que le coq n'est pas fondu...
Après, c'est peut-être abîmé, mais en tout cas, ça a été retrouvé. Ouais.
Ah, ça, c'est une belle grâce.
Et puis, regardez aussi la photo quand on voyait la croix. Oui. Enfin, vraiment, droite, la croix bien droite dans les décombres. Enfin, ça aussi, c'était magnifique, la photo.
Ah, pourquoi la flèche est restée droite dans les décombres?
Non, pas la flèche, mais la croix, quand tu rentres, c'est normal.
Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais attention. L'intérieur n'a pas du tout été touché par les flammes. Il faisait chaud. Mais rien n'a brûlé, même les toiles n'ont pas brûlé. Par contre, ça a été arrosé, 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 et je pense que le dais aurait été très abîmé.
Oui.
Non, il a été mouillé, abondamment mouillé. Et donc, ce miracle, pas inversé, mais ce miracle dur, hein, c'est que en Semaine Sainte, le toit de Notre-Dame brûle. Que le transept s'écroule, hein, parce que quand même, quand la flèche est tombée, elle a emporté des pierres du transept. Et donc, je vous demande de bien vouloir lire sur la Passion. Alors, si vous assistez aux messes du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, vous l'aurez. Mais il y a aussi un petit trésor qui n'est pas évident à lire, mais que je vous invite à méditer dans le futur pour connaître Jésus dans sa relation à son Père. c'est le discours après la scène. Et je terminerai par là. Vous voyez ?
Dans Saint-Jean ?
C'est dans Saint-Jean. Uniquement dans Saint-Jean, parce que c'est lui qui l'a bien vécu. Saint Matthieu aurait pu le dire, puisqu'il était présent. Saint Marc, lui, il n'était pas là. Saint Luc n'était pas là. Mais il était probablement dans les 72 disciples. Et ce qui fait que Saint Marc, c'est celui qui s'en va tout nu. Parce qu'à l'époque, si vous voulez, il n'y avait pas beaucoup de sous-vêtements. Et donc, quand on dormait, on pouvait très bien retirer sa djellaba, l'aube. Le manteau, c'est la chasuble. Le juste au corps, jusqu'aux pieds, c'est l'aube. Et parfois, on n'avait rien dessous. Vous voyez ? Mais les prêtres, eux, quand ils célébraient au temple, ils devaient avoir des caleçons, ce qu'on appelait des fémoralia. Donc, ils devaient avoir un caleçon qui leur prenait les deux jambes, la djellaba, l'aube, n'est-ce pas ? Et, la tunique du grand prêtre. Et quand on célébrait la Pâque, on devait avoir la djellaba, l'aube. Je ne sais pas comment on peut le dire de manière moins humoristique ou moins directe. Comment s'appelle ce manteau qu'ont les orientaux par rapport au sable? Voilà, ils n'ont pas de pantalon. Parce que ça arrête le sable. Les femmes qui sont actuellement en voile, tout ça, elles ne sont pas au désert, donc il n'y a pas de raison. Quand même. Vous voyez, c'est des vêtements du désert. Hein. Et ils devaient célébrer la Pâque en manteau, et même avec un bâton prêt à partir, prendre du pain non levé, rapidement cuit, comme dans la nuit de Pâques, avec des herbes amères, avec ce qu'ils avaient mangé à ce moment-là. Et l'agneau pascal, quand même. Eh bien, voyez-vous, donc le Christ, lui, il est là, et au jardin de Gethsémani, quand ils arrivent, ils dorment, et en fait, Marc, c'est un nom païen, ça veut dire le marteau, vous voyez ? Le marque allemand, ça veut dire la pièce frappée. Oui. Donc c'est une pièce frappée. Et le Jean, c'est juif, c'est hébreu. Jean-Marc, lui, a décidé de dormir en prenant un drap, un manteau ou un grand tissu pour mieux dormir plutôt qu'avec sa tunique. Vous voyez ? Et ce qui fait que quand tous ces événements sont arrivés, lui, il était avec son drap et il dormait. Et il voit toute l'arrestation et tout ça. Il part pas. Et à un moment, un des soldats l'attrape. Et là, pour le coup, il n'a pas envie de rester. Et il s'enfuit et il laisse le tissu dans lequel il s'était enveloppé, mais sans l'aube, sans la djellaba. Oui. Et alors, pourquoi il y a ce détail amusant dans l'évangile? Ben parce que c'est lui qui l'a écrit. Et il voulait. Et comme il l'a vécu, il est parti tout nu dans le jardin, comme le jardin d'Éden, comme Adam. Voyez. Et c'était une référence biblique pour lui aussi. Mais comme c'est une anecdote personnelle, il l'a mise dans son évangile. Et il était le compagnon de Saint-Pierre à Rome, Saint-Marc. Et donc, on le représente sur la façade de Saint-Pierre de Chaillot, dans un coin d'une salle, où Saint-Pierre est assis sur une cathèdre, sur un fauteuil. Ce fauteuil qui est en bois, dont les lattes sont dans la chair en bronze portée par les quatre docteurs de l'Église latine au fond de Saint-Pierre de Rome, en dessous de la gloire du Bernin, de la colombe du Saint-Esprit du Bernin, vous avez en dessous la chaire de pierre, qui est un beau fauteuil baroque, porté par quatre statues baroques de 3 mètres de haut, avec un fauteuil monstrueux. Et bien, ce fauteuil est creux, et il y a à l'intérieur les planches de la cathèdre de Pierre quand il enseignait au 1er siècle. Et les Romains sont très 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 méticuleux. Eh bien, vous avez Pierre qui est là et qui enseigne, ceux qui sont devant lui. Et au bout de la pièce, on voit un homme assis par terre, les jambes repliées, avec une tablette et un stylet. Et il a autour de sa tête Saint-Marc, et il est en train d'écrire. Et si vous avez de bons yeux, sur la tablette, c'est « Jésus dixit ». Et qu'est-ce que ça sous-entend dans la tradition orale de l'Église, représentée sur la façade de Saint-Pierre de Chaillot, qui est une église de 1934-1938? Eh bien, c'est que Marc a donné à la communauté des chrétiens de Rome, il a mis par écrit la prédication de Saint-Pierre. Et c'est pour ça que vous avez des détails de le reniement de Saint-Pierre plus précis dans Saint-Marc, alors que d'habitude, il est beaucoup plus court que Saint-Matthieu, Saint-Luc et Saint-Jean. Et Saint-Jean, lui, vient après les trois synoptiques, c'est-à-dire qui ont un même plan, et il dit des choses qui ne sont pas dans les trois premiers. Les évangiles synoptiques, c'est Saint-Matthieu, Saint-Marc et Saint-Jean, et Saint-Luc. C'est-à-dire, c'est à peu près le même plan des 3 ans de la prédication de notre Seigneur. Et Saint-Jean est beaucoup plus libre et donne des détails incroyables. Et il a écrit l'Apocalypse dans les années 70 et il a écrit son évangile dans les années 90. Il avait 94 ans, 92, 94 ans. Et toute sa tête. Oui. Il était prisonnier à Patmos et il a eu cette vision. Et là, vous voyez, c'est un peu comme un Benoît XVI, vous savez. On dit qu'il sucre les fraises, hein. Non, c'est pas parce qu'il marche difficilement avec un déambulateur, vous voyez, qu'il a le cerveau en fromage blanc. Il va avoir 92 ans le 19 avril, et vous avez l'abbé Iborra qui a traduit certains de ses livres de l'allemand au français. Et quand il a lu le texte de 15 pages que Benoît XVI a écrit consciencieusement il y a moins d'un mois, eh bien, il a reconnu parfaitement son style. Il m'a dit d'ailleurs qu'il était élégant et plus simple, un peu plus simple que dans ses livres de théologie. Donc c'est vraiment apostolique. Il écrit pour être bien lu, et c'est lui. 15 pages. Et puis je vous assure que il s'adresse vraiment au monde entier. Hein. C'est une lettre apostolique. Et à la fin, il dit « Je remercie François, le très saint père François, de tout ce qu'il peut faire pour l'Église. » Il a écrit en allemand. Oui, oui. Mais c'est traduit. Alors, pour terminer donc, je vous invite à lire le chapitre 13 et le chapitre 14 et le chapitre 15 et le chapitre 16 et le chapitre 17. Voilà. 18, c'est la passion. Mais du chapitre 13 au chapitre 17, vous avez Jésus qui parle, qui parle, qui parle. On se dit, mais, les exégètes modernes disent, vous voyez bien qu'il a tout inventé. Il ne peut pas avoir verbatim tout ce que Jésus a dit comme ça. Ah oui? Et quand on ressuscite un mort, c'est plus facile de se rappeler d'un discours? Que l'Esprit Saint puisse donner à Saint Jean d'écrire exactement ce qu'il a entendu? Voyez? Alors, vous avez c'est extraordinaire. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, chapitre 13, Jésus ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas Iscariote, fils de Simon, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retourne à Dieu, se lève de table, quitte son vêtement et prend un linge, qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin, et il se met à laver les pieds des disciples et les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive ainsi devant Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui déclara, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, plus tard tu le comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais !» C'était l'office des esclaves, hein. Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre, plein d'humour, lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes pur, mais pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit son vêtement et se mit à table. Et il leur dit « Alors, comprenez-vous ce que je viens de faire ? Vous m'appelez maître et seigneur. » Et là, voyez-vous, il les autorise à l'appeler maître et seigneur maintenant. Avant, il disait « C'est réservé à mon père. » Mais là, maintenant, je vais faire l'œuvre de mon père, avec une autorité. Et vous avez raison, car vraiment, je le suis. Ah oui, mais vous avez les protestants, ils disent « Oui, mais alors à ce moment-là, ils disaient qu'on a un seul maître et tout, machin. Bon. » Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. Alors là, il enseigne. Mais amen, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, le messager n'est pas plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez cela, heureux êtes-vous, pourvu que vous le mettiez en pratique. Je ne parle pas pour vous tous, moi, je sais quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que s'accomplisse la parole de l'Écriture. Celui qui partageait mon pain a voulu me faire tomber. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. » Et là, ils n'ont pas déchiré leurs vêtements. Le grand prêtre, lui, va déchirer ce vêtement. Parce que c'est réservé à Dieu de dire « je suis tout court », sans épithète, hein, sans adjectif qualificatif. Amen, je vous le dis, recevoir celui que j'envoie, c'est me recevoir moi-même. Et me recevoir, c'est recevoir celui qui m'envoie. Vous voyez, d'où l'honneur rendu au prêtre. Non, en fait, le chapitre, fin du chapitre 13, au départ de Judas, en fait. Par rapport, chapitre 13 de Saint Jean, verset 33. Oui. Quand il fut sorti, ou même verset 31. Quand Judas fut sorti, Jésus déclara, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire et il la lui donnera bientôt. Excusez-moi, hein, mais là c'est, là on écoute Dieu, hein. Et là on va être spectateur d'un dialogue entre le Verbe et l'Ancien des Jours. C'est vraiment incroyable. Il est en train de parler de son Père, de la gloire divine. Et nous, on est là. C'est la Vierge Marie, elle vit dans la gloire divine maintenant. Elle participe, mais elle reste une créature, mais elle est imprégnée de la vie divine. Et quand les enfants de Fatima la voient, bien, ils voient de la lumière qui bouge. Elle était comme lumineuse. Voyez. Et imaginez la gloire dont parle Jésus. Mes petits-enfants, et alors la manière dont il parle à ses apôtres. Hein. Mes petits-enfants. Alors qu'il y en a qui sont plus âgés que lui. Enfin, il est Dieu, quoi. Avant qu'Abraham fût, je suis. Donc, il peut quand même. Je suis encore avec vous, mais pour peu de temps, et vous me chercherez. J'ai dit aux Juifs, là où je m'en vais, vous ne pouvez pas y aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Et là, la foi chrétienne, hein, que vous le vouliez ou non, faites attention. Tradit ou pas tradit, le problème des tradits, c'est la foi, un peu d'espérance et parfois des problèmes avec la charité. Alors, il faudrait pas que les progressistes aient la charité mielleuse, une espérance débordante et une foi malade. Voyez ? Parce que là, Jésus, il donne un commandement. Hein. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas beaucoup de conversions actuellement. Et à un autre endroit, Jésus dit, quel mérite avez-vous si vous aimez ceux qui vous aiment? Aimez vos ennemis. Et dès que vous souhaitez la damnation de quelqu'un, comme par exemple Jacques Attali, et ben vous, Vous n'êtes plus chrétien. Donc moi, dans mes moments de très grande concentration et de grande ferveur, je demande à Dieu, mais comment ce mage kabbaliste pourrait-il se convertir? Et là, Jésus me dit, ben, demande-le-moi. Je pourrais plus aller sur YouTube? Non. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je m'en vais, tu ne peux pas me suivre pour l'instant. » Et là, il annonce la mort de Pierre. Hein. Mais c'est particulier, Jean sait que Pierre est Pierre et que c'est le prince des apôtres. Parce que là, il donne un détail qui est réservé à Pierre. Donc c'est l'évangile aussi de Pierre, saint Jean. Pas normal, pourquoi les autres aussi vont mourir hein. Pourquoi il le dit à Pierre? Parce que malgré ses maladresses, il est le prince des apôtres. Pierre dit lui-même, Saint Paul, quand on le lit, on ne comprend pas tout. Mais c'est quand même extraordinaire. Vous avez deux épîtres de Saint Pierre. Deux, je crois. Comment? Ah non, 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 là c'est Pierre. Et là, ça rigole pas. C'est pas le même style. Hein. Pierre, il n'était pas drôle. Ils vont crever en enfer et tout ça. Enfin, et à un moment donné, il dit, mais il faut être gentil et tout. C'est le catholicisme. Oui. Et là, Saint-Pierre dit, et il y en a qui, avec Paul, exagèrent un peu parce que, on ne comprend pas tout. Et d'ailleurs, ils tirent des textes de Saint-Paul vers des erreurs. Bon, ça se comprend, on ne comprend pas tout. Top. Hein, c'est le coup de pied, c'est la mule du pape. Parce que Saint Paul, il s'était levé et dit, mais hier tu mangeais avec les non-circoncis, et là tu manges pas avec les non-circoncis, tu ne marches pas droit selon l'évangile. Hein? Toi, cafara, tais-toi. Vous voyez? Pierre, c'est Pierre. Là, Paul, c'est le cardinal cafara. Il dit, amoricitien, on comprend pas très bien, hein. Ça ressemble pas trop à l'évangile. Et là, François, Et Saint Paul de rajouter dans l'épître aux Galates, et ce n'est pas rien de tenir tête à Pierre. Mais voyez, Pierre, c'est quand même Pierre. Là, Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Et là, Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, tu donneras ta vie pour moi, amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié trois fois. Non, c'est à la fin de Saint Jean qui lui dit, un jour viendra où tu iras là où tu ne veux pas aller et que d'autres te ceindront et te mettront ta ceinture alors que tu ne veux pas. Voilà. Et alors là, le chapitre 14, c'est vous voulez entendre Dieu? Lisez 14, 15, 16, 17. C'est Dieu qui parle. C'est mieux que au Mont Sinaï. Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quel culot. Hein? Pour moins que ça, le grand prêtre, c'est pas ses vêtements qui déchirent. Hein? Il s'arrache tous les cheveux de la tête. Hein? Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il demande la même foi que pour son père. Non. Dans la maison de mon père, beaucoup peuvent trouver leur demeure, de mon père. Hein? Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Attendez, comment on peut écrire un truc pareil? Si c'est inventé. Jamais quelqu'un qui aurait inventé aurait mis un dialogue authentique comme ça. Le bonhomme, il comprend rien et il le dit. Et Saint Jean le reprend. C'est comme lorsque Saint Pierre, dans les Actes des Apôtres, il est là, il est libéré, il croit rêver, il est dehors de la prison, il a vu, oh j'ai vu un ange, les chaînes sont tombées, tout ça, toutes les portes sont ouvertes devant moi, oh, quel rêve merveilleux. Et puis il est dans la rue, il est là, oh, quel rêve, voilà. Quel rêve. Il a une minute, deux minutes, il est toujours dans la rue. Puis il sent le vent, je sais pas, c'est tôt le matin. Il se retourne, là les prisons est toujours ouvertes. Et puis je sais pas, il se tâte, il voit qu'il est. Voilà, il dort pas trop. Et puis il commence à se dire, les gardiens, ils vont peut-être se réveiller là-dedans, ils vont peut-être sortir. Donc là, il part dans les rues. Et il va au cénacle, où ils sont tous calfeutrés, ils ont fermé la porte à clé. Et là, il est là, et il tape contre la porte, et il dit, mais c'est solide, hein. Non, pour un rêve. Non, 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 ça doit pas être un rêve. Et tac, 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 tac. L'ange m'a délivré, c'est sûr. Et il tape, et il tape. Et là, vous avez une demoiselle, une dame qui est là, et qui est à la porte, et qui dit, mais c'est qui? C'est Pierre. Et alors qu'on priait pour lui depuis au moins 2-3 jours, oh, c'est merveilleux. Et elle part. C'est la pièce haute, hein, la pièce de la scène, hein. Elle rentre dans la maison, elle monte l'escalier, tout ça, elle dit « Pierre est en bas, il est sorti, il est libre !» Et là, dans les Actes des Apôtres, qui est vraiment authentique, il y a Luc qui devait être là, ils lui disent « Il est en bas ?»« Oui, 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 il est en bas, il est à la porte !» Et là, il y a une phrase incroyable « Et tu ne lui as pas ouvert ?» Vous voyez ? Ben non, et donc il est là en train de sécher de peur dehors. Et là, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, il n'a pas encore dit qu'il allait mourir, mais enfin il le sent bien, mais c'est pas clair. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Parce que lui, quoi, il croit qu'on va à Béthanie, enfin je sais pas, bon. Jésus lui répond. Et là, il répond comme à la Samaritaine, et la Samaritaine elle dit, mais tu n'as pas de quoi prendre de l'eau, tu vas me donner de l'eau et de la super eau, j'aurai plus jamais soif après. Elle est au ras des pâquerettes, elle monte un peu petit à petit et Jésus lui parle. Même à Nicodème, il n'a pas parlé comme ça. Vous voyez. Hein? J'ai une eau qui jaillit pour la vie éternelle. Fais venir ton mari. Et là, je n'ai pas de mari. Et là, lui dit, tu dis vrai, tu en as eu 5 hommes, et l'actuel n'est toujours pas ton mari. Je vois que tu es prophète, parce que à Samarie, on n'en connaissait que 3 sans doute. Hein. Et lui dit, je vois que tu es prophète, nous attendons le Messie. Est-ce que c'est toi? Et là, est-ce que... non. On nous dit que le Messie devrait venir. Et même les Samaritains avaient gardé l'idée du Messie. Hein. Et là, Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. À une femme, alors qu'il a interdit aux hommes de parler seul à seul avec une femme, qui vient chercher de l'eau, il lui dit qu'il est le Messie. Alors que ça fait des mois que à chaque fois qu'il y en a un qui dit il est Messie, ou vous avez un démon qui dit c'est le Messie, tais-toi. Et là, et il dit à cette Samaritaine, je suis le Messie, ce qui le condamne à mort à Jérusalem. Hein. Et en plus, il vient de dire, on n'aura pas adoré ni au Mont Garizim, ni en Samarie, ni à Jérusalem. Déjà, il commence à dire, détruisez ce temple, et je l'en construirai en 3 jours, c'est le début. Hein. Elle part à la ville, elle dit, il m'a raconté ma vie, il m'a dit ma vie, serait-ce le Messie? Et là, tout le monde arrive, lui pose plein de questions, il reste 3 jours, et à la fin, ils disent, ce n'est pas à cause de ton témoignage maintenant que nous croyons en lui. C'est parce que nous l'avons entendu et nous croyons, et c'est les Samaritains qui disent, waouh, qu'il est le sauveur du monde. Et vous avez Mohamed Ben Salman qui a acheté ce qui a fini par être reconnu pour un Léonard de Vinci, le sauveur du monde. C'est un magnifique portrait de notre Seigneur, de Léonard de Vinci, qui était complètement privé. Hein, on voit le style de Léonard de Vinci, bon, un peu potelé, tout ça, mais enfin, c'est Léonard de Vinci. Et il a dans sa main le globe terrestre, qui est une petite prouesse quand même de Léonard de Vinci, parce que c'est un globe en cristal peint. On a l'impression que le cristal va sortir de la toile. Autant on peut discuter sur le visage du Christ, autant sur le globe de cristal, il est impressionnant. Eh bien, il l'a acheté pour 500 millions de dollars. Comment? Ben, on verra bien. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Il est 45, donc je vais m'arrêter. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et là, attendez, ils sont 12. Attention, Saint Jean est un pharisien. Il a fait des études auprès de Gamaliel. Hein. Ils sont pas tous des marins pêcheurs. Mais Pierre, Jacques et Jean. Donc Jacques a dû étudier. Pierre, il a peut-être pas étudié, mais il était extrêmement pieux et il a entendu la Sainte Écriture à la synagogue tous les sabbats. Et vous avez Matthieu, Lévi, il était publicain, donc il a étudié. Donc c'est pas à 12 niveaux qu'il a ou 12 charbonniers qu'il disait ça. Hein. Dès maintenant, vous me le connaissez et vous l'avez vu. Dieu le Père, celui qui a parlé au Sinaï, celui qui a parlé à Abraham, à Moïse. Où Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Déjà la voix du Père, Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Philippe. Quand Jésus donne un prénom, c'est Marthe. C'est très gentil. On dit ça un reproche. On ne dit pas un reproche quand on double le prénom. C'est un petit reproche, mais très affectueux. Marthe. Tu te soucies de beaucoup de choses, mais elle a choisi la meilleure part et ne sera pas retirée. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ah, c'est la Trinité là, un seul Dieu, hein. Trois personnes et un seul Dieu. Un seul Dieu. Vous voyez, les dans le Coran, pour lutter contre le christianisme, le conquérant Mahomet va, avec des prêtres hérétiques chrétiens et des rabbins, concocter un truc terrible, et il dit, la Trinité, c'est associer des créatures à Dieu le Père. À Dieu. Mais non. Non, Dieu est un Père qui se dit éternellement dans un amour éternel. Tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. La Trinité. Ah oui, mais la Trinité, c'est un concept théologique qui date du 4e siècle. Non. En effet, le mot Trinité a été forgé par la théologie, mais dès Saint-Hilaire de Poitiers. Hein. Mais franchement... Je suis dans le Père et le Père est en moi. Les paroles que je... Donc, il croyait, sans avoir le mot Trinité, Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Et Jésus leur dit, allez enseigner les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ah, mais comment peut-il parler de lui avec une telle distance, il dit le Fils, mais c'est lui le Fils, alors il aurait dû dire au nom du Père, de moi et du Saint-Esprit. Et combien de fois le Christ a dit le Fils de l'homme, en parlant de lui. Donc on ne peut pas baptiser autrement qu'en disant je te plonge dans l'eau, je te noie, et tu meurs, noyé, sans pouvoir respirer, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et quand tu sortiras de l'eau et tu pourras respirer, tu ressusciteras. Et donc, voyez-vous, je décide que pour la veillée pascale, on va creuser un trou et on va vous baptiser par immersion. Et je vous laisse 2 minutes dessous. Prenez votre respiration et... Hop, pour que le signe du baptême soit fort, parce qu'en Occident, pour des raisons de convenance... Pour des raisons de froid, on verse uniquement l'eau sur la tête. Alors je vais demander à ce qu'on verse de l'eau de telle manière que vous puissiez pas respirer pendant au moins 5 secondes. Voilà. Que au moins le signe de la noyade soit complet. Mais n'oubliez pas que si l'eau ne va que sur votre front, n'oubliez pas que vous mourrez. Et comme le Christ ne pouvait pas respirer sur la croix, et quand l'eau cesse de couler, vous pouvez respirer à nouveau, et que vous êtes ressuscité, pas seulement vivant parce que vous avez survécu à une noyade. Vous êtes mort avec le Christ, noyé, baptême ça veut dire plonger, plongeons, et que vous êtes ressuscité à une vie nouvelle et qu'il ne partira jamais. Avez-vous des questions? Terminez cette révélation extraordinaire après la scène de Saint Jean. Et donc, je crois que vous avez fait un catéchisme assez complet depuis quelques mois. Et donc,